Histoire de voir, histoire au pluriel, une émission sur la mémoire des révoltes, luttes et résistances populaires d'hier et aujourd'hui, avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs et des artistes. Rendez-vous tous les mercredis en direct de 12h10 à 13h ou en différé sur laclédesondes.fr.
Alors nous sommes à Boulazac, même dans la salle de mariage de Boulazac, parce que nous faisons notre tournée avec Pierre Robin et nous allons aujourd'hui donc dans cette jolie ville, c'est tout à côté de Périgueux. Demain, nous serons à Montflanquin, c'est pas très loin, et puis à Nérac dans deux jours. Et bien c'est l'occasion de faire un peu le tour des livres et des auteurs qui ont écrit dans les révoltes populaires en Aquitaine, le colloque que l'on a organisé en juin dernier. Et aujourd'hui, on est avec Jean-Michel Layette qui a écrit un article très très intéressant dans le livre, hein, puisqu'il s'agit de la grève des battages en Dordogne en 1943. Et on va le voir, c'est un des actes de résistance qui sont partis de la Dordogne. Bonjour Jean-Michel.
Eh bien écoute, bonjour.
Alors donc tu vas nous parler tu vas nous résumer la communication que tu avais faite l'année dernière au musée d'Aquitaine pour le colloque sur ces révoltes populaires en Aquitaine de la fin du Moyen Âge à nos jours.
La grève des battages, c'est le nom que on va dire que la résistance elle-même donne à ces actions qui vont être menées de la toute fin juillet 43. Jusqu'à début octobre. Mais le pic se situe au moment du battage du blé, par définition, puisqu'il s'agit de s'opposer ou de retarder ou de perturber le battage du blé et surtout d'empêcher les réquisitions qui sont menées par le gouvernement de Pétain à l'époque pour ce qu'ils appellent le ravitaillement général, à des prix qui sont pas suffisants pour les agriculteurs. Et sur cette part qui est réquisitionnée, il y a la partie évidemment qui est acheminée vers l'Allemagne. Ce qui fait que de manière générale dans le pays, la résistance cherche par des sabotages, par tout un type d'action, à s'y opposer. Et en Nord-Dordogne, ça prend, à mon avis, donc ça c'est quand même original, cet aspect grève des battages sur lequel je me suis interrogé, j'ai essayé de rassembler les éléments, de voir un peu ce qu'il en était. Ce que je pense avoir trouvé, c'est que c'est le début des premiers maquis, c'est-à-dire de ces groupes de jeunes dans les bois.
Les Allemands avaient franchi la ligne de démarcation, là, je crois.
Oui, ils sont arrivés en 42 à Périgueux, ils ont installé une antenne de leur police que les gens appelaient la Gestapo. C'était pas exactement ça, peu importe, c'est le nom que les gens ont retenu, le police politique, quoi. Chargé d'assurer la sécurité des troupes d'occupation, donc de réprimer tout acte qui pouvait porter atteinte aux soldats allemands, etc. Et ils ont aussi, à cette époque-là, de leur état-major, adopté une doctrine qui consiste à dire que les actes de résistance sont la résistance est une question militaire pour eux. C'est-à-dire que les Américains ont débarqué en Afrique du Nord et ils savent bien quelle va être la suite, ils vont essayer de débarquer en France, ils ne savent pas quand ni où. Mais ils savent que ça va venir, donc c'est une question militaire. Ils ne peuvent pas laisser se développer des groupes qui leur tirent d'affaires, etc.
Alors en plus, ce que tu expliquais, ce sont des jeunes paysans qui prennent en charge
ça. C'est très clair. Ça part, il faut bien commencer par un bout. Donc ça part très, très clairement au tout début. C'est les groupes qui vont se constituer comme groupe FTPF. C'est à l'initiative d'un militant bien connu qui a déjà 30 et quelques années, un passé de militant politique communiste dans la ville de La Coquille, qui est une petite ville sur la Nationale 21 qui relie Périgueux à Limoges, vers le nord du département, donc il s'appelle Dolé-Blanchou. Son père était déjà militant, Edmond, donc le père et le fils sont des vieux militants, le père était militant SFIO. En 1920, il devient militant communiste. Ils implantent des syndicats, ils implantent des mutuelles. Ils ont toute une activité de militants, quoi. Et donc lui, cet homme-là, au début de l'été 43, peut-être un peu avant, mais il y a des fils de militants qu'il connaît qui sont requis pour le STO. Et lui, il dit, on va s'organiser, vous n'allez pas partir. Donc les premiers groupes se constituent avec pas mal de... Oui, ce sont des jeunes paysans. Parce que c'est la profession qui est ultra, ultra majoritaire, socialement. Et les premiers groupes sont constitués avec des fils d'eux, fils de militants, essentiellement, c'est vrai. Et après, bon, ça va prendre une autre, d'autres proportions, de l'ampleur, mais ce sont des jeunes paysans. Et Jean Dolé Blanchot est un militant paysan. Guingouin était instituteur, par exemple.
Voilà, c'est ça. Oui, comme toi, d'ailleurs, instituteur comme toi. Hein, voilà. C'est aussi une filiation importante. Hein. Oui, et donc, alors, ces groupes se constituent. Moi, je me souviens, dans ton intervention, il y avait quelque chose qui m'avait interpellé. C'était que les méthodes d'action n'étaient pas les mêmes suivant les lieux où se situaient les sabotages, alors, en fait.
Si tu veux... Enfin, oui, ça, c'est important. Hein. Bon, il y a différents modes d'action. Moi, j'ai fait une classification. Hein, j'ai répertorié... Je crois trois grands modes d'action. Soit on tente de détruire la batteuse, on la fait péter, ou on l'incendie. Bon, on détruit le matériel. Soit, parfois, bon, comme les actions ont commencé, que ça se sait, il suffit de lettres bien ciblées qui disent « ne battez pas », si, enfin, des lettres de menace qui peuvent être suivies des faits. Hein. On voit que les gendarmes signalent que l'entrepreneur rentre sa batteuse et ne veut plus la sortir. Il ne veut pas qu'on lui... Et il y a 9 actions, par contre, où on ne détruit pas la batteuse, mais on enlève les courroies, on l'empêche de fonctionner. Et c'est... Alors, elles sont minoritaires, hein, c'est 9... Alors, moi, j'ai réussi à répertorier, donc, si je fais bien les comptes, 44 actions, hein, c'est ça, oui. Et donc, j'en ai trouvé 9 où on enlève la courroie. Et pourtant, ceux qui en parlent après, voilà, qui l'ont pratiqué...
Jean-Michel me montre la photo des alors c'est des vieux messieurs de maintenant,
René
hein.
Sebourdier,
hein. René Sebourdier qui était un jeune homme à l'époque et qui faisait genre...
À l'époque, il était à la vieille cour, qui commandait le groupe, qui s'est fait arrêter d'ailleurs, et qui là, il finit sa carrière en se faisant remettre la Légion d'honneur. Il est toute sa vie, il reste syndicaliste CGT dans les PTT.
Voilà.
Et à l'occasion de la remise de la médaille, c'est intéressant parce qu'il revient sur sa trajectoire et il reparle des battages, de la grève des battages. Et l'action qu'il retient, c'est celle de retirer les courroies. Alors que... Ça n'a pas été celle qui... c'était plus simple de faire péter. Alors, sur cette histoire de mode d'action, ce qui est intéressant, si on lit, par exemple, la biographie de Guingouin qu'a fait Fabrice Grenard, on voit que lui, il est résolument pour... on fait sauter la batteuse, point barre. Y compris, on la fait sauter, même si elle est garée, si elle n'est pas en action. Mmh. En Dordogne, ils ne vont s'en prendre qu'aux batteuses qui sont en train d'effectuer le battage, quand elles sont sorties des remises, quoi, etc. Et ils vont distribuer des tracts appelant à la grève des battages en posant des revendications, en disant si vous satisfaisiez telle et telle et telle revendication, on pourrait se remettre à battre. Les revendications, à l'époque, il n'y a pas de négociation possible, il n'y a pas d'interlocuteur, etc. Mais ils vont retenir cette forme-là. C'est un point de vue un peu propagandiste, hein, enfin, je pense. Enfin,
alors tout ça se fait, alors, j'allais dire, de manière un peu spontanée, hein, ça s'organise de cette façon-là, tu l'expliquais en début, c'est des militants chevronnés et leurs enfants qui passent à l'action.
Ben, au début, les FTP ils recrutent dans les fils de militants chevronnés, hein, et ça c'est très clair, et puis après ça va être le contraire, hein, le Parti communiste va recruter des militants parmi les jeunes qui viennent au FTP.
Mais oui, parce que, et puis,
parce
oui,
que ça
oui.
va devenir un truc de masse assez large, en tout cas.
Oui, parce que c'est large. Renforcé par les gens qui fuient justement
bon,
le STO.
Voilà, gens qui fuient le STO. On trouve pas mal de jeunes venus de Charente. Bon, je ne vais pas répertorier. Enfin, dès qu'on réussit à savoir d'où vient un résistant, souvent, hélas, quand il s'est fait tuer, parce que c'est là qu'on a l'état civil,
oui.
On s'aperçoit qu'il y a des jeunes qui viennent en Dordogne, rejoindre ces groupes-là, c'est un moyen pour eux d'échapper au STO.
Alors justement, tu parlais de résistants tués, la répression allemande va s'exercer.
Alors c'est ça. D'abord, il y a Vichy qui réprime. Alors il mène une campagne pendant tout le mois, je crois, enfin, du 15 août, dans leur presse contre les actions qui visent le blé. Ils font un projet de loi pour punir de peine de mort ceux qui s'en prennent aux batteuses. Et ils envoient leurs forces de répression dans le nord d'Ordogne, les GMR, hein, qui pendant une dizaine de jours vont ratisser le secteur et vont réussir à arrêter dans la forêt de Vieillecourt un des premiers groupes de maquis, donc René Sabourdi qui s'évadera ensuite, etc. Bon. Mais ce qui va se passer, c'est qu'au mois de septembre, par contre, le 23 septembre, ouais, là, ce sont les Allemands directement qui interviennent.
Ah oui.
Et c'est la première intervention des Allemands contre la résistance en Dordogne, chronologiquement. Et ils vont arrêter Jean Dolé, voilà, en lui tendant un piège, etc., etc. Ils vont arrêter Jean Dolé Blanchot à la Coquille. C'est une arrestation qui est assez violente. Il y a encore sa fille qui l'a vécue, qui en parle, quoi. Et il va être déporté, il va mourir en déportation.
Oui.
Voilà. Donc oui, il y a la répression assez vite, quoi, de Vichy et directement des Allemands.
Et donc ça s'arrête faute de combattants, si
ça,
je puis dire.
Ça s'arrête... j'ai parlé de Guingouin à un moment donné. Quand il en parle lui-même, il a écrit 4 ans de lutte sur le sol limousin, quand il en parle, il dit que c'est à cause de ce type d'action qu'il a pris ses distances avec le PC, avec le Parti communiste, hein, qu'on lui a dit c'est complètement fou de faire des trucs, de s'en prendre à ce matériel, tu vas nouer les paysans à dos, enfin, c'est ce qu'il dit lui. L'historien qui s'y intéresse, bon, relativise peut-être un peu, mais le désaccord, ou la discussion en tout cas, renvoie à très certainement une réalité. Et quand Dolé Blanchot est arrêté, il y a des tracts de distribués qui appellent à arrêter la grève des battages. Voilà. Qui appellent à arrêter la grève des battages. Alors c'est vrai que le préfet a reculé sur un point, c'est qu'il faisait garder les batteuses, c'était pas très efficace, hein, peut-être, par ce qu'il appelait des requis civils. C'est-à-dire qu'il demandait aux maires dans les communes de désigner des jeunes à qui ils fournissaient des fusils de chasse pour, pendant la nuit, garder la batteuse. La résistance le dénonce comme étant une provocation pour entraîner des combats fratricides, etc. Mène vraiment campagne là-dessus, et le préfet recule. Le préfet dit, bon, on arrête ce système-là.
Il crée des milices, en fait.
Il cherche à armer des jeunes paysans, des requis, ça veut dire qu'on ne leur laisse pas le choix, hein, ils sont sommés d'eux. Effectuer ce service-là, comme il faisait pour les voies ferrées d'ailleurs. Ils avaient recours à ce type de choses-là.
Bon. Eh bien, écoute, Jean-Michel, naturellement, c'est vraiment très très court, hein, l'interview. Donc, on vous invite à d'abord acheter notre livre, hein, puisque Les révoltes populaires en Aquitaine de la fin du Moyen-Âge à nos jours est toujours disponible. Hein, vous pouvez le trouver dans les librairies bordelaises et ailleurs, ou en nous écrivant tout simplement sur la Clé des Andes, et on vous transmettra, hein, c'est au prix de 20 €. Et là, vous retrouverez l'article que Jean-Michel a produit pendant le colloque, où il développe beaucoup plus, en fin de compte, les actions de résistance de manière beaucoup plus précise, avec des détails sur les arrestations notamment, et sur les circonstances qui ont mis ça en place. On n'a même pas eu le temps d'évoquer la figure mythologique de Jacques Croquant, et il me disait tout à l'heure que le Parti communiste sur le Périgord a toujours une feuille.
Elle s'appelle la voix de Jacques.
La voix de Jacques, hein, c'est ça, et ouais. Qu'il y avait des groupes de résistants qui portaient ces noms, si tu m'as dit.
Je pense qu'il y avait un groupe FTP qui s'appelait Jacques le Croquant, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est sûr que c'est une référence. Dès qu'il y a des mouvements de protestation, etc., on se réfère à Jacques le Croquant comme ayant marqué l'état d'esprit en Dordogne, etc. Bon, c'est un mythe, évidemment.
C'est un véritable mouvement paysan qui s'est auto-organisé, on va dire, autour du Parti communiste, puisque c'était les cadres, disons, naturels de l'époque. Et comme tu t'intéresses, Jean-Michel, au communisme rural, tu nous disais tout à l'heure, c'est pour toi une démonstration intéressante.
Oui, oui, tout à fait. Oui. Le mythe renvoie, renvoie à des réalités, hein, ça c'est clair. Qui sont étudiés aujourd'hui par les historiennes, donc ceux-là auxquels tu fais référence en parlant du communisme en milieu rural, qui ont trouvé des historiens qui ont travaillé là-dessus, c'est très intéressant, ou à la communication de Delpont lors du colloque et au travail qu'il a fait sur, en quelque sorte, les mobilisations, moi j'appelle ça je ne sais pas si c'est le terme que j'ai trouvé chez lui ou pas, mais enfin du quatrième état, c'est-à-dire ceux qui ne payaient pas 3 journées d'impôts et qui donc n'étaient pas des citoyens actifs, comme, etc., mais qui ont eu un rôle très important au moment de la Révolution française pour l'abolition des privilèges, qui ne s'est pas arrêtée au 4 août, mais qui a continué jusqu'à ce que tombent les droits seigneuriaux. C'était un droit complètement moyenâgeux de percevoir un impôt sur des terres qui... Voilà.
Eh bien, écoute, merci beaucoup, Jean-Michel. Et puis, on est en forme pour la conférence de ce soir, en attendant beaucoup de monde, on l'espère. Merci beaucoup, Jean-Michel.
Histoire de voir, histoire au pluriel, une émission sur la mémoire des révoltes, luttes et résistances populaires d'hier et d'aujourd'hui. Militants, témoins et acteurs du mouvement social, écrivains, chercheurs, artistes, rendez-vous tous les mercredis en direct de 12h10 à 13h ou en différé sur laclédesondes.fr. Histoire de voir, histoire au pluriel.